prendre. Si, si. Mais ils sont pas assez forts. Je pense que c'est plus dans les haut-parleurs que dans le reste. Voilà, là je crois que c'est bon. C'est le baptême. On a déjà parlé du baptême, mais il y a d'autres choses à dire sur le baptême parce que c'est un enseignement de la parole de Dieu qui est plus grand que ce que nous pensons en général. C'est la dernière fois, dimanche dernier, je vous ai parlé de ce que c'est la mort et la résurrection. Je parlais aussi des formes et comment on baptise. Et qui est baptisé? L'important, c'est de. Nous ne baptisons que des convertis, des personnes qui sont nées de nouveau. Il y a des. Donc, le baptême des enfants que pratiquent certaines personnes, qui n'est pas le baptême biblique. Alors, j'ai étudié leur pensée sur leur baptême. Alors, il y a la pensée catholique, qui évidemment est totalement fausse. Il y a, parce que pour un catholique, quand on dit baptisé, parce que nous employons le même mot, mais on dit baptisé à un catholique, lui, c'est rentrer dans l'Église catholique. C'est-à-dire que hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Ça, c'est ce que j'ai appris au catéchisme catholique quand j'étais catholique. Et quand quelqu'un est baptisé, il est sauvé. Voilà. Quelqu'un baptisé, il est sauvé, à condition qu'il ne commette pas de péché mortel. Mais un bébé qui n'est pas baptisé, eh bien, il est perdu. Il n'ira pas au paradis pour un catholique. Mais les protestants, même s'ils baptisent les enfants, ce n'est pas un baptême catholique. C'est le baptême protestant des enfants, pour eux, c'est la circoncision. Voilà. Et ils entrent dans l'alliance. Et c'est comme cela que parlent les protestants quand il est question de leur baptême. Ils entrent dans l'alliance. Mais nous n'entrons dans l'alliance que par le moyen du sang de Jésus-Christ. En dehors du sang de Jésus-Christ, nous n'entrons pas dans une alliance. Et ce n'est pas le baptême, même le nôtre, qui nous fait rentrer dans une alliance. Donc, quand les gens parlent de baptême, si vous ne précisez pas, ils parlent parfois d'autre chose. Alors, notre baptême, nous, c'est ce qu'on nous appelle. Alors, je vais employer des mots, peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Il y a les églises multitudinistes et il y a les églises de convertis. Alors, les églises multitudinistes existent par le baptême des enfants. C'est-à-dire que quand on baptise un enfant, eh bien, il entre dans cette église. Alors, on dit, il y a tant de millions de protestants, mais qui ne vont jamais à l'église, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas convertis. Tandis que pour nous, quand quelqu'un est converti, qu'il est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est de l'extérieur, il vient dans l'église. C'est un étranger à l'Église, il accepte Jésus-Christ comme son sauveur et après un approfondissement dans ses connaissances et pour voir s'il est vraiment converti, s'il est vraiment né de nouveau, il y a un temps d'épreuve et un temps d'enseignement. Quand on sait que la personne est née de nouveau, alors elle est baptisée. Ce sont des églises de convertis. Et quelqu'un qui fait partie de notre Église, s'il n'est pas converti, même si c'est un enfant de chrétien qui est fidèlement assidu à l'Église, qui vient régulièrement, qui fait tout ce qu'il faut, il n'est pas converti, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas membre de notre Église. Il faut qu'il soit passé par la nouvelle naissance et ensuite, eh bien, il y a le baptême. Donc il y a quelque chose de très différent. C'est pour cela qu'il n'y a pas de pays baptiste. Jamais il y a eu un pays qui a la religion baptiste. Il y a des pays protestants, il y a des pays catholiques, à cause du baptême des enfants. C'est comme cela. Nous, on dit il y a eu des hommes de Dieu qui étaient nés de nouveau, qui étaient réconciliés avec Dieu, et même aux États-Unis, il y a eu des présidents qui étaient chrétiens. Mais ils n'étaient pas d'une appartenance, c'est pas leur appartenance. Ils étaient, on les assimile parfois à des protestants, mais ils n'étaient pas forcément protestants. Ils étaient nés de nouveau, réconciliés avec Dieu et baptisés. Et il y en a au moins deux. Et c'est le un que l'on ne connaît pas et que j'aime bien, c'est Garfield, le président, qui a été assassiné, le pauvre, parce qu'il était chrétien. Voilà, je pense. Et en général, les deux qui étaient chrétiens ont été assassinés. Mais donc, vraiment chrétien. Donc, quand vous voyez le baptême, ce n'est pas une forme. C'est beaucoup plus que cela. C'est le baptême, c'est ce que Pierre dit, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau, qui est réconcilié avec Dieu, et il désire marcher encore mieux avec le Seigneur. Il a fait le pas de la foi pour être réconcilié avec Dieu, et il veut marcher dans le chemin de Dieu, et résolument. Alors, il prend l'engagement du baptême. Il dit, j'aimerais bien être baptisé. C'est et vous rencontrez des chrétiens qui sont des chrétiens de longue date, qui ne sont pas baptisés. Vous leur dites, mais ça serait bien d'être baptisé. Et vous leur parleriez en chinois que ce serait la même chose. Ils ne voient pas la nécessité d'être baptisés. Et d'un autre côté, si vous examinez leur vie chrétienne, c'est une vie tiède, une vie médiocre aussi. Parce que quand la personne veut marcher avec le Seigneur, après être convertie, elle veut être baptisée ensuite. Celui qui ne veut pas être baptisé, eh bien, est rarement un chrétien bouillant. Je mets le rarement pour ne pas dire jamais. Parce que quand quelqu'un veut marcher avec le Seigneur, eh bien, il désire être baptisé. Ça fait partie du processus normal. Et même quelqu'un est né de nouveau et vous dit quand est-ce que je peux être baptisé? C'est presque la deuxième question après comment est-ce que je peux être sauvé? La personne dit j'aimerais être baptisé. Voilà. Alors c'est parce que on a une bonne conscience, on veut plaire à Dieu, on veut marcher avec Dieu, alors on veut être baptisé. C'est quand la personne ne veut pas être baptisée, il y a quelque chose d'anormal. Donc c'est dans la marche normale de quelqu'un qui est né de nouveau, eh bien, il y a le baptême. Donc le baptême. Dans l'épître aux Romains, on va lire le verset, c'est Romains chapitre 6, hein, qui nous parle du baptême. Alors, Romains chapitre 6, c'est la partie du verset 3. Et c'est jusqu'au verset 6. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dans le baptême a une forme, mais il y a une signification aussi. Ce n'est pas seulement l'accomplissement d'une forme, on immerge une personne dans l'eau et on la ressort. Ça, c'est la forme. Mais la réalité du baptême se passe dans le cœur. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un chrétien. Le jour où Jésus-Christ devient son sauveur, il est vivant. Avant, il était mort, et maintenant, il est vivant. Il est devenu une nouvelle créature. Et c'est quelque chose qui doit bien être compris dans la pensée d'un chrétien. C'est que avant, il était mort, et maintenant, il est vivant. Et le baptême est une image de ce qui s'est passé à notre conversion. Nous étions morts dans nos péchés, par notre incrédulité et notre éloignement de Dieu, par notre désintérêt de Dieu même. Et un jour, Jésus-Christ est devenu notre sauveur. Et ce jour-là, nous avons été changés. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Il y a eu un changement fondamental dans notre vie. Nous étions morts et maintenant nous sommes vivants. Et la vie d'un chrétien est une vie ressuscité. Ce n'est pas une vie dans la mort. Alors, le problème, c'est que il y a dans les églises, la plupart des églises, un très mauvais enseignement par rapport à ces choses. C'est même, je peux dire, il y a un enseignement qui amène les chrétiens à ne jamais être de bons chrétiens, à ne jamais avancer. On prend le péché comme une fatalité. Mais nous sommes ressuscités. C'est-à-dire que nous sommes vivants. Ce qui est vivant a une puissance sur ce qui est mort. Par exemple, nous avons devant nous des chaises. Elles ont un désavantage par rapport à nous. C'est qu'elles sont mortes. Elles peuvent être très confortables, très agréables et tout, mais elles sont mortes. Et vous pouvez prendre un marteau et la détruire. Elle ne réagira pas. Elle ne pourra pas faire autre chose que d'encaisser les coups de marteau, et vous la verrez se détruire à coups de marteau. Alors si vous êtes très fort, vous allez la détruire rapidement. Si vous avez un gros marteau, ce sera encore plus rapide. Mais si vous êtes faible, eh bien, vous le ferez moins facilement. Mais nous, en tant que chrétiens, face aux choses qui sont mortes, on a une puissance que nous ne soupçonnons pas. Et la plupart des messages chrétiens que j'ai entendus sur ces questions-là, c'était des messages passifs, des messages de défaitistes, comme si le péché avait un pouvoir réel et puissant sur nous. Mais le péché, nous pouvons dire non. C'est parce que le péché, c'est la mort. Et nous sommes vivants en Jésus-Christ. Et ce n'est pas nous qui avons la puissance par nous-mêmes, c'est Jésus-Christ vivant en nous. Et c'est aussi la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Et donc, il y a la capacité de dire non et de repousser le péché, d'avancer, de triompher même. Nous parlons souvent, il y a des chrétiens qui parlent du monde. Ah, le monde, la télévision, les médias et tout cela, c'est comme si c'était une force terrible que nous n'arriverons pas à surmonter. Mais je peux vous dire, le monde est mort. Il est mort, réellement mort. Il gît dans la mort. Satan est de la mort, même s'il est très actif. Même s'il est très puissant, par rapport à Dieu, par rapport à nous, il est mort. Et ce qui est vivant est toujours plus puissant que ce qui est mort. C'est un verset des Proverbes qui dit, dans l'Ecclésiaste, maintenant j'ai ma mémoire me fait défaut, il est dit, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Et je peux vous dire, le lion, aussi puissant soit-il, s'il est mort, il ne réussira, il ne vous donnera pas un coup de griffe. Tandis que le chien, même s'il est malade, il est capable de vous donner un coup de dent. C'est donc une réalité. Satan est mort. Le monde est mort. Mais nous, par rapport à la vie chrétienne, la vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie, excusez-moi de le dire, une vie vivante. C'est ce que le Seigneur Jésus appelle la vie éternelle. Quand vous voyez dans la Bible et surtout dans les prédications du Seigneur Jésus, la vie éternelle. Et même, vous avez ce fameux verset de Jean 3,16. Il est dit que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce n'est pas une vie qui ne finit pas seulement, mais c'est une vie qui a une dimension de l'éternité, c'est-à-dire une vie puissante, une vraie vie. Alors le chrétien qui vivote, excusez-moi cette expression, qui vivote la vie chrétienne, n'est pas un chrétien qui vit la vie chrétienne que Dieu en réserve pour lui. Donc, quand nous nous faisons baptiser, on témoigne d'une chose, c'est que nous avons une nouvelle vie. Nous sommes ressuscités. Et nous témoignons que le péché maintenant, eh bien, n'a pas de pouvoir sur nous. Le monde, les séductions de Satan, tout cela n'a pas de pouvoir. Toutes ces choses ont le pouvoir qu'on leur donne. C'est le pouvoir de notre incrédulité, de notre ignorance. Mais ce que je désire, c'est que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Nous pouvons dire non. Et la liberté, ce n'est pas de dire oui, c'est de dire non. C'est là que l'on prouve sa liberté. Si vous avez, par exemple, un tyran sur notre pays, il dit, vous avez la liberté de dire oui à tout ce que je dis. Ben, vous allez rire, vous allez dire, c'est une belle liberté, ça. C'est la liberté, c'est de pouvoir dire non à ce que dit quelqu'un. C'est ça le pouvoir, la liberté, c'est de dire non. Et quand vous avez la liberté en Christ, c'est de dire non au péché, non à Satan, non au monde. Parce qu'il y a une nouvelle vie, une vie ressuscitée. Et c'est cela que symbolise le baptême. C'est l'enseignement qu'il apporte. C'est quand nous étions morts dans nos péchés et dans ce qui est dit ici, hein, c'est nous avons vécu dans toutes sortes de péchés. Certains étaient de grands pécheurs, d'autres étaient de petits pécheurs. Et nous étions tous sous le règne de Satan et dans le monde. Mais le jour où Jésus-Christ est devenu notre Sauveur, nous sommes ressuscités à une nouvelle vie. Nous étions perdus, maintenant nous sommes sauvés. Nous étions du royaume de Satan, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous étions sous la dépendance du péché et des séductions de ce monde, et maintenant nous ne sommes plus là-dedans. Nous ne sommes plus dans la séduction du péché. Ça ne veut pas dire que le péché ne peut pas nous tenter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation où nous sommes fortement tentés même. Mais rappelez-vous toujours, devant une tentation, vous avez la possibilité de dire non. Alors, nous ne disons pas toujours non, et nous tombons, et il faut le mettre en règle. Et retourner à la réalité de la vie de résurrection. Mais un chrétien a une vie ressuscitée, et il marche en nouveauté de vie. Et sa vie, eh bien, elle est différente de celle du monde. Si le monde vit d'une certaine manière, le chrétien n'est pas obligé de vivre de la même manière. Si le monde pense d'une certaine manière, le chrétien n'est pas obligé de penser de cette manière. Et c'est l'enseignement du baptême. Quand nous pratiquons ce geste, il y a derrière ce geste une réalité, un témoignage. Et nous disons: j'étais mort et je suis ressuscité. Et j'entre de plein pied dans la vie chrétienne. Et mon désir, c'est de vivre la vie chrétienne, pas médiocrement, mais la vivre pleinement. Entrer complètement dans la vie chrétienne. J'étais mort dans le péché, dans la désobéissance, et j'étais loin de Dieu. Maintenant, je suis dans une nouvelle vie. Et je vis cette nouvelle vie. Et je désire la vivre pleinement, complètement. Vous savez que un bébé, quand il n'est pas à moitié à la vie, hein? Il vit complètement. Est-ce qu'il y a une possibilité de vivre à moitié la vie humaine? Si vous la vivez à moitié, vous êtes à moitié mort. Mais quand on est à moitié mort, moi, j'appelle ça être mort, parce qu'on n'est jamais à moitié mort. ou on est mort ou on est vivant. Si vous êtes mort, eh ben, tant pis, vous êtes mort. Mais si vous êtes vivant, vous êtes vivant. Donc quand on est né de nouveau, à plus forte raison, nous sommes nés à une nouvelle vie, pour vivre pleinement la vie chrétienne. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité, il est ressuscité pleinement. Et les gens qui l'ont vu ressuscité, eh bien, on dit, il est vivant. Il est vivant. Ils l'ont touché, ils l'ont constaté qu'il était vivant. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, c'est ils l'ont vu. Quand le Seigneur Jésus vit en nous, il vit en nous sa vie ressuscitée, cette nouvelle vie. Alors, c'est un message triomphal qu'annonce le baptême. Ce n'est pas un message de médiocrité. La vie chrétienne n'est pas une vie médiocre. Et la plupart des chrétiens, malheureusement, vivent une vie en dessous de ce que Dieu demande. C'est de ce que Dieu attend. C'est parce que dans les églises, l'enseignement n'est pas, la plupart du temps, n'est pas complet. On ne va pas jusqu'au bout et jusqu'à dire aux gens, mais vous n'êtes pas obligé de tomber, vous n'êtes pas obligé de vivre dans la tiédeur et dans la médiocrité. Vous êtes responsable pour cette nouvelle vie que le Seigneur Jésus vous a donnée, qu'il vous a acquise à la croix. C'est quand les premiers chrétiens ont annoncé l'évangile, eux étaient complètement convaincus de cette nouvelle vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le monde. On a accusé Paul d'avoir rempli la ville d'Éphèse de l'évangile. Mais je peux vous dire, la ville d'Éphèse était une grande ville. Ce n'était pas une ville de 50 000 habitants. C'était une ville de 200 000 ou 300 000 habitants. C'était une grande ville. Et il y avait toute la région qui allait autour. Et il a ruiné le commerce des fabricants d'idoles en annonçant l'évangile. Un homme. Et je peux vous dire, l'évangile que nous avons, il n'est pas différent de celui que Paul avait annoncé. Et la vie chrétienne, c'est la même. Donc, ce que je vous dis, quand nous avons le baptême, nous avons un message extraordinaire, vous savez. C'est quelque chose que vous n'imaginez pas. Nous contentons de ce que nous voyons, la forme. On plonge une personne dans l'eau et elle se ressort de l'eau et nous disons, ah, il a été baptisé. On se réjouit et c'est bien. Mais il y a un message derrière. Et ce que je voulais vous dire ce matin, c'était ce fameux message qu'il y a derrière le baptême. Bien plus que simplement le fait que je me suis converti, c'est le fait que je suis rentré dans une nouvelle vie. J'étais perdu, j'étais mort, et maintenant je suis vivant. Voilà.